Bonjour à tous, je suis Thomas Fauché, donc je suis exoplanétologue à la NASA, au Goddard Space Flight Center, donc c'est à côté de Washington, DC. Alors exoplanétologue, c'est un terme un peu compliqué, hein, en fait, donc je suis un expert des exoplanètes. Et donc en fait, on a plusieurs casquettes avec ce type de métier. On est à la fois astrophysicien, puisqu'on regarde des étoiles, en fait, c'est vraiment ce que l'on fait, donc des astres. Ensuite, eh bien, on étudie des planètes, donc on a ce côté planétologie, on essaie de comprendre quel type d'atmosphère elles peuvent avoir, quel type de climat, les surfaces aussi. Et puis, on est aussi astrobiologiste parce que ben, voilà, on essaie de chercher la vie dans l'univers, les conditions favorables et les indices en fait, pour la trouver.
Alors, quel a été votre parcours d'étudiant?
Alors, j'ai commencé avec une licence de physique-chimie à l'Université du Littoral Côte d'Opale, ULCO, donc sur les sites de Dunkerque et Calais. Et je me suis spécialisé sur la physique en troisième année. Et ensuite, j'ai fait un master en sciences spatiales, spécialité astrophysique à l'Université de Liège, en Belgique. Et ensuite, en fait, j'ai eu une très bonne opportunité via un professeur que j'avais eu en licence. De faire une thèse en sciences de la Terre sur les nuages de glace, qu'on appelle les cirrus, les nuages de très haute altitude. Et bien que ce ne soit pas de l'astronomie, c'était une thèse qui était un sujet très intéressant, avec un encadrant que je connaissais particulièrement. Et donc, j'ai foncé vers cette thématique. Et j'ai passé, du coup, ma thèse de doctorat à Lille, au laboratoire d'optique atmosphérique, sur cette thématique-là des nuages de glace. Et ensuite, j'ai candidaté à un postdoctorat à la NASA. Donc ça, c'était donc en 2014. Et toujours sur la thématique de ces nuages de glace, leur forme, leur hétérogénéité et comment tout ça impacte un peu, si vous voulez, l'étude que l'on en fait depuis les satellites. Et j'ai obtenu ce poste de postdoctorant donc à la NASA c'était une durée de 2 ans, puis une troisième année. Et dès que j'ai terminé ça, en fait, voilà, j'étais bien établi à la NASA et j'ai voulu continuer là-bas sur ce site au Goddard. Mais avec une idée de me dire, j'ai envie de revenir vers l'astronomie. Et pour moi, les exoplanètes, c'était le meilleur moyen parce que voilà, j'ai une thèse en sciences de la Terre, l'atmosphère de la Terre, et j'ai un master en astrophysique. Combinez les deux, vous avez les exoplanètes. Et en faisant simplement des prises de contact ici au Goddard, j'ai pu intégrer le groupe Exoplanète donc depuis 2017.
Alors, quel a été votre parcours professionnel?
Alors, professionnel, donc mon premier contact avec la recherche, donc c'était durant un stage de licence troisième année que j'ai fait à l'université de Liège. Donc, ma licence encore était à Dunkerque et Calais. Et donc là, j'ai étudié les étoiles massives à collision de vent durant un stage de 2 mois. Et en particulier, ce premier système qui a un nom un peu barbare, HD-150-136. Et mon objectif, ce système est un système binaire d'étoiles massives, donc très grosses étoiles les plus chaudes dans l'univers. Et voilà, elles tournent autour l'une autour de l'autre. Et il y avait un soupçon qu'il y aurait peut-être une troisième étoile dans le système. Donc, ça serait un système triple. Et mon job, en fait, c'était de trouver ce troisième compagnon. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça en a fait, en fait, le système d'étoiles massives triples le plus proche de la Terre qu'on avait découvert à ce jour. Ensuite, bien, durant mon master à Liège, je devais aussi faire une certaine partie en laboratoire. Et j'ai continué à travailler sur ces étoiles massives, sur un autre système qui s'appelle V444 Cygni, et cette fois-ci par observation en rayonnement X via un satellite qui s'appelle XMM Newton. Et là aussi, pour caractériser ce système, et en particulier regarder le choc que ces deux étoiles, en fait, ils ont des vents stellaires extrêmement puissants qui rentrent en collision, et en fait, la collision extrêmement puissante émet des bouffées de rayons X, et donc on peut caractériser ce système via cette étude. Et puis après, durant ma thèse de doctorat, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, mon expérience de recherche était vraiment focalisée sur les nuages de glace de la Terre, les cirrus, ces très beaux voiles fins que l'on voit dans un beau ciel d'été. Et ma thèse était vraiment focalisée sur modéliser ces nuages-là avec un générateur 3D. Donc, j'ai participé au développement d'un générateur de nuages, comme ça, via un modèle informatique. Et aussi de comprendre le rayonnement infrarouge, donc qui est à la fois émis par la Terre et son atmosphère, passe à travers ces nuages. Et ces nuages ont un effet assez important sur l'effet de serre, donc finalement, ça crée un réchauffement de la Terre. Et donc, j'ai vraiment étudié cette comment dire, interaction entre le rayonnement et la matière, et qu'est-ce qu'on peut voir depuis un satellite quand on étudie ces nuages, quelles sont les propriétés des nuages qu'on peut restituer via cette observation satellitaire, et quelles sont les approximations que l'on fait quand on fait cette démarche-là, qui peuvent impacter nos résultats et qui peuvent impacter nos conclusions. Et c'est quelque chose que j'ai ensuite continué, comme je l'ai dit tout à l'heure, durant mon post-doctorat, mes 2, 3 premières années à la NASA. Et puis après, voilà, quand je vous l'ai dit, ça m'a amené à la thématique des exoplanètes. Et là, vraiment, c'est ce que je fais depuis pas mal d'années. Je cherche à comprendre quelles sont les atmosphères que l'on peut trouver sur ces planètes au-delà du système solaire, qui peuvent être rocheuses, petites comme la Terre, ou gazeuses, géantes comme Jupiter et Saturne. Et quelles sont les conditions nécessaires pour essayer d'y trouver la vie, donc l'habitabilité et ce genre de choses.
Alors, quels sont les challenges de l'astrobiologie en ce début du 21e siècle?
Alors oui, c'est une très bonne question. Il y en a pas mal en fait. Le challenge numéro un, c'est le fait qu'on est un peu coincé dans un paradigme. C'est-à-dire que voilà, la seule planète que l'on connaît habitable et habitée par la vie, c'est la Terre. Et donc, on a un seul point de référence. Et c'est très compliqué d'essayer de chercher d'autres points de référence quand on n'en a qu'un seul à la base. Toute la vie sur Terre est basée sur la chimie du carbone. C'est difficile même d'imaginer une forme de vie qui serait basée sur quelque chose de différent. Et donc, ça, ouais, pour moi, c'est vraiment l'obstacle principal, c'est d'essayer d'extrapoler à partir de simplement un point de données. Alors après, au système, en système solaire, on a la possibilité, via des missions que l'on envoie sur Vénus, Mars, voire au-delà, de faire des fois des mesures un peu in situ, ce qui est intéressant. Donc on peut là vraiment avoir des données de grande fiabilité. Par contre, un autre challenge dans l'astrobiologie, pour tout ce qui est au-delà du système solaire, donc là justement pour chercher la vie sur les exoplanètes, eh bien c'est qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. C'est-à-dire, en fait, ce que l'on cherche principalement, c'est ce qu'on appelle les biosignatures, donc des signatures de biologie via l'émission de gaz que l'on sait sur Terre être vraiment connectées à la vie, donc comme l'ozone, le méthane, l'oxygène, etc., etc. Eh bien, il s'avère que si on cherche ces molécules dans l'atmosphère d'une autre exoplanète, ça peut être dû à la vie, mais il y a d'autres mécanismes aussi chimiques, géologiques, qui peuvent créer ces molécules aussi et qui peuvent du coup nous induire en erreur. Et ça, c'est assez problématique parce que même si un jour on détecte ces molécules clés, il va falloir vraiment être très sûr de quel contexte on a sur cette planète pour en savoir la source. Et ça va être très, très compliqué à mon avis.
Alors, pouvez-vous nous faire part de deux à trois grandes missions, deux à trois grands projets actuels en astrobiologie, en précisant bien entendu au préalable les différents télescopes sur lesquels s'appuient les astrobiologistes, puisqu'aujourd'hui, on constate à la fois en France mais en Europe l'envoi de nombreux gros satellites d'observation. Je fais allusion notamment aux premières images du télescope Euclide, mais pas que.
Oui, bien sûr. Eh bien, deux, trois. En fait, il y en a vraiment énormément. C'est vrai que, voilà, même si on pense au départ encore une fois au système solaire, je pense directement là à Vénus. Alors, on peut éviter Mercure. Mercure n'a pas vraiment une atmosphère. Mercure a une exosphère. Donc, je pense l'astrobiologie sur Mercure, on va un peu oublier. Mais sur Vénus, en fait, c'est très intéressant parce que la Vénus est clairement plus du tout habitable, au moins dans notre définition, mais elle a peut-être pu l'être dans le passé. Et donc, on a pas mal de missions là qui ont été acceptées récemment, les quelques dernières années, à la fois du côté européen et avec Envision, et du côté américain avec Veritas, du vraiment porté JPL, donc États-Unis côte ouest, et Da Vinci, ici au Goddard, d'ailleurs, avec des gens de mon laboratoire. Ce sont trois missions qui vont vraiment essayer d'étudier Vénus de manière plus approfondie. Qu'est-ce qui a fait que Vénus a évolué, de la façon dont elle a évolué? Est-ce qu'elle a pu être habitable dans le passé ou pas? Ça fait encore beaucoup de débats. Donc là, on est clairement dans la thématique astrobiologie pour Vénus. On parle pas de la télescope, mais même sur Terre, en fait, vous avez beaucoup d'astrobiologistes qui restent sur Terre et qui étudient en fait les environnements extrêmes pour chercher ce qu'on appelle les extrémophiles, donc ces bactéries qui peuvent vraiment résister des environnements très très compliqués. Et donc ça, c'est vraiment de l'astrobiologie, parce qu'après ça nous permet de mettre ça en contexte dans un environnement plus large, planétaire et interplanétaire. Et puis Mars, forcément, on a beaucoup d'orbiteurs autour de Mars. On a des rovers Curiosity, Perseverance, qui cherchent encore une fois des évidences potentielles d'une vie passée. On cherche le fil de l'eau. On a maintenant de très, très, très grandes évidences qu'il y a eu de l'eau pas mal sur Mars. Et puis après, on peut aller même sur les lunes de Jupiter et Saturne. On peut aller sur des missions pour Encelade ou Europe. On a la fameuse mission Europa Clipper, qui va vraiment essayer d'étudier Europe et donc, si vous voulez, les éjections que l'on voit de matériel en fait, qui vient d'en dessous de la surface d'Europe, parce que l'eau n'est clairement pas en l'état liquide sur la surface de ce type de corps, mais on soupçonne qu'il y a de l'eau à l'intérieur de ces lunes. Et par des sortes de cryovolcans, de volcans, on a possibilité d'avoir du matériel qui est éjecté de la surface de la Lune, et ensuite on peut analyser ça avec ce type de mission. Et pour ce qui me concerne, moi, particulièrement, on a une mission, enfin, un futur là lointain, dans l'horizon 2040, auquel je participe un peu à l'élaboration du concept, c'est HWO. En anglais, HWO pour Habitable Worlds Observatory, donc l'Observatoire des mondes habitables. Voilà l'objectif de ce télescope, à peu près de la taille de James Webb, mais en regardant dans l'ultraviolet visible et proche infrarouge, ça va être d'imager, pardon, une exosphère autour d'un exosoleil. Donc vraiment voir le point bleu pâle autour d'une étoile comme le Soleil. Et d'ensuite d'essayer d'analyser cette atmosphère et de chercher des formes de vie. Donc cette mission va vraiment être orientée là-dessus et essayer de répondre à la question, sommes-nous seuls dans l'univers? Mais voilà, il va encore falloir être un peu patient parce que c'est dans quelques décennies.
Un beau projet, en tout cas une belle mission.
Ouais.
Alors, avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant ou professionnel qui vous a influencé pour vous orienter sur votre carrière d'excellence?
Alors, oui, il y en a plein, en fait. C'est ça qui est toujours très intéressant, je trouve, finalement, dans un cursus, c'est qu'il y a plein de rencontres qui sont très positives. Je pense à ce que j'avais mentionné tout à l'heure, à mon premier stage à l'Université de Liège. Donc, j'avais rencontré Monsieur Éric Gosset lors d'une porte ouverte de la Société astronomique de Liège, en fait, et j'étais venu avec un copain à moi, et on a été à cette porte ouverte et cherché un stage. J'ai approché ce chercheur qui m'a bien voulu m'accueillir en tant qu'étudiant de stage. Et ça m'a été mon premier contact à la recherche, et ça m'a vraiment beaucoup passionné. Et puis, comme j'ai mentionné tout à l'heure, Philippe Dubuisson, donc, qui a été mon directeur de thèse principal, aussi avec Céline Cornet et Frédéric Chappe. Donc, Philippe Dubuisson, c'était le professeur que j'avais eu en licence et qui m'a recontacté à la fin de mon master en me proposant une thèse de doctorat. Donc là, ça a été aussi une personne clé dans mon parcours. Ensuite, eh bien, à la fin de mon doctorat, en fait, un autre chercheur du laboratoire de Lille, Oleg Dubovic, durant mon pot de thèse, donc j'ai été mon docteur, m'a promis en fait de mettre en contact avec un chercheur de la NASA, Steve Platnik, et il a vraiment tenu parole, il m'a mis en contact, et c'est Steve Platnik, c'est avec lui que j'ai écrit mon projet pour le postdoctorat de la NASA, et qui m'a permis d'être sélectionné sur dossier, du coup, et sur ce projet. Et ensuite, finalement, un des derniers, une personne qui a été vraiment clé aussi, c'est Sean Domagal Goldman, qui est mon chef actuel, si vous voulez, un très grand astrobiologiste de renommée mondiale, que j'ai rencontré ici, en fait, à Goddard, et que j'ai demandé de le rencontrer parce que j'étais intéressé à faire des exoplanètes. Et donc, il a pris sur son temps, m'a rencontré, m'a demandé quelle est votre spécialité. Et je lui ai dit, moi, j'ai fait beaucoup de nuages. Je suis un expert des nuages, chez les générer, chez faire le transfert de radiation à travers. Et ah, c'est très intéressant, c'est une expertise qu'on n'a pas dans le groupe. Est-ce que tu voudrais regarder le logiciel ici, notre code, et voir si tu pourrais y intégrer Nuage? Et c'est ce que j'ai fait, et ça m'a garanti une place dans l'équipe à laquelle je suis actuellement. Donc oui, beaucoup
Bravo.
de rencontres, je dirais.
Bravo, bravo.
Merci.
Alors, vous avez créé le Trappiste 1 taille, plus spécifiquement un modèle représentant la comparaison de l'atmosphère des planètes habitables en dehors du système solaire, les fameuses exoplanètes, liées à des observations simulées. Comment vous est venue l'idée de la création de ce modèle, en fait? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce modèle de comparaison?
Oui, bien sûr. Et donc, en fait, l'idée m'est venue justement avec Sean de Magal Goldman, hein, le premier mois dans lequel je suis arrivé dans son équipe. Et on a eu une discussion sur ce que je pouvais apporter, etc. Et au même moment, il y a eu une conférence qui s'appelle Habitable Worlds, donc les mondes habitables, dans le Wyoming, aux États-Unis. Et je ne suis pas allé parce que je venais tout juste de commencer ma nouvelle affectation. Et il y a pas mal de chercheurs dans le domaine donc de la simulation climatique d'exoplanètes qui se sont rencontrés à cette conférence et qui ont l'idée d'aller discuter durant un dîner de la nécessité de comparer ces modèles, puisque ces modèles sont développés à travers le monde dans plein de groupes différents et ils sont extrêmement complexes. On appelle ça des GCM pour Global Climate Models, ou modèles de climat globaux. Ce sont les mêmes modèles qu'on utilise sur Terre, en fait, pour prédire l'évolution du climat terrestre avec le réchauffement climatique et autres. Et on les applique à des exoplanètes, forcément en changeant les paramètres. Et donc, ils se sont réunis autour d'une table dans un restaurant thaïlandais pour discuter de la nécessité de faire donc des intercomparaisons. Puisque le problème actuellement avec les exoplanètes, c'est qu'on a très 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 peu de données. On a les données pour les plus grandes exoplanètes, mais pas les plus petites. Et lorsqu'on utilise des modèles pour essayer de si vous voulez, de prédire leur composition, il n'y a aucun moyen vraiment de valider ces modèles. Donc c'est complexe, on n'a pas d'informations pour les calibrer. Donc le mieux que l'on puisse faire, c'est comparer les modèles ensemble pour au moins être d'accord et avoir quelque chose d'harmonieux lorsqu'on fait des prédictions et éventuellement l'interprétation des données. Et donc, c'est ce qui est devenu ce projet. On a voulu se focaliser sur la planète TRAPPIST-1e, qui est donc une des planètes avec le meilleur potentiel pour l'habitabilité que l'on connaît. C'est dans ce système TRAPPIST-1 qui est à 40 années-lumière environ et qui possède 7 planètes rocheuses, dont 3 dans la zone habitable, TRAPPIST-1e, F et G. Et donc l'idée, c'était, ben, on va utiliser cette planète et puis on va utiliser des modèles donc, de climat globaux qui sont connus pour les exoplanètes. Donc il y avait le modèle ExoCAM, le modèle donc, qui est de NCAR aux États-Unis, le modèle du Laboratoire de météorologie dynamique de Paris, le modèle du LMD, le modèle du Met Office en Angleterre et le modèle Rocky 3D qui est de la NASA à New York, à Guis. Et donc, on a combiné ces modèles, on a fait exactement la même configuration et on simule TRAPPIST-1e. Eh bien, on a observé des différences entre les prédictions de ces différents modèles. Et ensuite, j'ai pu les quantifier et connecter ces différences de prédictions avec, si vous voulez, si un modèle vous génère une atmosphère, que je veux dire atmosphère A, et l'autre vous génère une atmosphère B. Ensuite, vous direz, ah, je veux utiliser le James Webb, le fameux nouveau télescope que l'on a très très puissant, pour analyser cette atmosphère. Eh bien, si mon premier modèle, il me donne une atmosphère A et une atmosphère B, je vais avoir différentes prédictions quand je vais essayer d'observer ça avec le James Webb. Et donc, c'est vraiment ce qui a été fait avec ce projet de taille, c'est quantifier l'incertitude que l'on a lorsqu'on fait des simulations avec différents modèles climatiques pour prédire l'atmosphère, la détectabilité d'une atmosphère telle que celle que TRAPPIST-1e pourrait éventuellement avoir. Mais on est encore en train de la chercher, par contre.
Alors aujourd'hui, où en est-on avec cet outil mis en place? Y a-t-il eu des évolutions de ce modèle? Par combien de spécialistes approximativement est-il utilisé?
Alors, Thaï, c'est vraiment, ouais, c'est devenu très international. Alors, le projet comptait peut-être une centaine de chercheurs, quelque chose comme ça. On a fait un gros workshop en 2020 qui comptait 120 participants. Et ça continue à se développer parce que de ce fait, ce projet, cette simulation de cette exoplanète est devenue un point de référence. Et lorsque vous avez un autre groupe dans le monde qui a aussi l'intention de simuler cette exoplanète, et ben ils vont utiliser cette configuration, cette expérience, si vous voulez, pour calibrer leur modèle et pour du coup avoir un peu plus de confiance quant aux prédictions.
Et pourquoi en fait il n'a pas été créé plus tôt?
Là, c'est une très bonne question. C'est vrai que oui, ça aurait sûrement dû être le cas. En fait, on s'est vraiment basé sur CEMIP, qui est donc ce grand projet qui date depuis, je crois, 1995, si mes souvenirs sont bons, de comparer les modèles de climat sur la Terre hein, pour le changement climatique. Et les intercomparaisons de modèles comme ça ont été utilisées à foison dans la communauté des sciences de la Terre, mais ça n'avait pas encore vraiment émergé du tout pour la communauté des exoplanètes. Pour une raison que j'ignore finalement, mais c'est moi, en arrivant avec mon profil de sciences de la Terre, hein, doctorat et postdoc, j'ai pu apporter cette compétence qui était manquante, je pense. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, les exoplanètes, on a très, très, très peu de données. Contrairement à la Terre, on a des tonnes de satellites et d'observatoires partout, donc on peut bien calibrer nos modèles. En exoplanète, ce n'est pas le cas. Et aussi, des fois, on a, je pense, une variété de modèles encore plus vaste, parce que des fois, on fait des simulations avec des modèles qui sont extrêmement simplistes, par exemple des modèles qu'on appelle 1D, donc une seule dimension. On suppose que notre planète, c'est qu'une seule colonne d'atmosphère, qu'il n'y a pas de structure 3D, parce que forcément, on ne connaît pas grand-chose sur cette exoplanète, donc quelle est l'erreur vraiment que l'on fait quand on fait ça? Et ça permet aussi d'avoir des calculs beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapides que des calculs de gros modèles 3D. Et de ce fait, beaucoup de gens utilisent ces modèles très simplistes pour faire des milliers d'exoplanètes en même temps, des simulations de milliers et de milliers d'exoplanètes. Et donc, en fait, vous arrivez vraiment avec une boîte à outils qui est énorme parce qu'il y a des modèles très variés, parce que la diversité d'exoplanètes est énorme aussi. Et rien n'était vraiment comparé et calibré. Et donc, maintenant, c'est vraiment un projet qu'on a étendu avec Cuisine, là, qui est derrière moi, avec ce logo, où on essaye de vraiment pousser ça à toutes les catégories de modèles exoplanètes et toutes les tailles et masses d'exoplanètes aussi.
Alors, dans la même dynamique que la question précédente, vous avez aussi créé le modèle cuisine. Alors, qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Ah oui, mais alors, donc, avec le succès de Thaï, donc justement, bon, qui. Donc, c'est le chercheur François Forget au LMD, à l'Université de Paris-Jussieu, qui avait trouvé cet acronyme que je dis, ça a commencé à un restaurant thaï. On faisait Trappiste 1, donc c'était Trappiste Habitable Atmosphere Intercomparison. Donc, ça, c'est l'acronyme thaï. Je me suis dit, bah voilà, ça a bien marché, mais thaï, ce n'était que pour l'exoplanète Trappiste 1e, et ce n'était que pour des modèles GCM de climat globaux. Il faudrait donc, comme je l'ai dit, étendre ce type de projet aux autres catégories de modèles et aux autres exoplanètes. Et c'est exactement ce qu'est Cuisine. En fait, on a créé un réseau d'intercomparaison de modèles pour toutes les catégories d'exoplanètes qui existent et de modèles. Et donc, on a gardé l'esprit de nourriture, en fait, donc l'esprit cuisine. L'acronyme est assez complexe, mais en fait, ça veut dire en gros l'utilisation de climat pour les exoplanètes, etc. Et tous ces projets que vous avez derrière moi, en fait, eh bien, ils portent tous aussi un nom différent. Vous avez Camembert, qui veut dire la comparaison des modèles d'exoplanètes pour les mini-Neptunes, qui est une catégorie d'exoplanètes. Vous avez Code Accra, qui sont les accras de morue. Vous avez Paille, donc la tarte, Malbec, Samosa, Filet, Mocha, Crème. Et donc, en fait, on essaie vraiment d'avoir une diversité de nourriture à travers tous les continents. Et je pense que ça marche très, très bien, en fait, parce que j'avais pas du tout à la base l'idée de s'en servir en tant que stratégie de communication, mais c'est devenu super efficace parce que les gens ont bien aimé l'acronyme. On a fait des logos à chaque fois pour chacune des intercomparaisons qui ont pas mal de succès aussi. Donc ouais, ça s'est bien développé à l'échelle internationale et on a vraiment beaucoup d'articles scientifiques qui sont émis dans ce projet et des conférences régulières toutes les années. Pardon.
Très bien. Alors, les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et pourquoi?
Ah, oui, hein, mais pour moi, elles sont fondamentales parce qu'il faut, en fait, si vous voulez, il faut faire le pont entre le monde de la recherche et le grand public. Parce que le monde de la recherche est souvent assez obscur. Et en fait, je pense que c'est fondamental d'avoir donc une association comme la vôtre, en fait, qui peut permettre de faire cette interface, parce que ça, en fait, plus on va communiquer et le mieux possible, en fait, plus on va éviter les théories du complot et ce genre de choses qui émergent vraiment de partout. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, personnellement, j'essaie de faire le plus de communication scientifique que je peux avec mon emploi du temps très chargé. Mais je pense que ouais, c'est quelque chose qui devrait être fait systématiquement, par la majorité des chercheurs.
Alors pour finir, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et l'astrophysique et le spatial en particulier?
Alors, il faut être passionné. Ça, c'est fondamental. Et il ne faut pas se laisser décourager du tout. Même si on peut avoir des difficultés ici et là dans différentes matières. Moi, il y a une époque, quelques années, les maths, c'était pas trop mon dada, mais j'ai réussi à passer outre et puis à progresser. Donc vraiment, ouais, vraiment foncer, lire beaucoup, beaucoup de livres. Depuis l'âge de 8 ans, j'avais commencé à lire beaucoup de livres d'astronomie et d'astrophysique. Et en fait, la passion est un moteur extrêmement puissant et ça permet de franchir les difficultés. C'est vraiment ce que j'ai ressenti personnellement. Et avoir lu beaucoup, beaucoup de livres de vulgarisation en astronomie et physique théorique durant mon enfance et adolescence, en fait, ça m'a permis de comprendre énormément de mécanismes avant d'arriver en études supérieures, licence, master, où là, il a fallu mettre un formalisme mathématique très compliqué. Mais j'avais déjà compris les concepts. Et donc, j'avais pu vraiment à travailler sur les équations et ça a vraiment facilité la tâche. Et surtout, il faut savoir se vendre, en fait. Il faut vraiment montrer qu'on est passionné et aller au contact des chercheurs, ne pas avoir peur, faire la démarche de ce contact et puis maintenir son réseau quand le réseau est établi. C'est-à-dire que voilà, vous avez quelqu'un, vous avez interagi, un chercheur et autres. Il faut régulièrement, au moins une fois par an, entretenir un email et un contact avec ces chercheurs.